49. Jean Dibal resta encore assis après avoir laissé se dissoudre la vision mentalique. Il demeura ainsi de longues minutes à réfléchir. Durant le long trajet jusqu'à Seychelles, inévitablement long avec ce vaisseau qui ne pouvait aucunement rivaliser avec la technique de pointe des réalisations de la première fondation, il avait pris le temps de revoir l'intégralité des rapports envoyés par Trévise. L'ensemble s'étalait sur près d'une décennie. Vu dans leur totalité, et à la lumière des événements récents, ils révélaient, indubitablement, que Trévise aurait pu constituer une merveilleuse recrue pour la seconde fondation, si la politique de ne jamais toucher aux natifs de Terminus n'avait pas été instaurée depuis l'époque de Palver. Il était impossible de dire combien, depuis des siècles, la fondation avait ainsi pu perdre de recrues de la plus haute qualité. Il n'y avait aucun moyen d'évaluer les capacités de chaque individu parmi le milliard de milliards d'êtres humains qui peuplaient la galaxie. Aucun, sans doute, ne devait être toutefois plus prometteur que Trévise, et très certainement, aucun ne pouvait se trouver situé à un endroit plus sensible. Jean Dibal hocha légèrement la tête. Jamais on n'aurait dû ignorer Trévise. Natif de Terminus ou pas, grâce soit rendue à l'observateur Compor pour s'en être aperçu, même avec toutes les distorsions apportées par les ans à la personnalité du sujet. Bien sûr, Trévise ne leur était plus d'aucune utilité à présent. Il était trop âgé pour être modelé. Mais il avait toujours cette intuition innée, cette capacité à discerner une solution sur la base d'informations pourtant totalement inadéquates. Et puis, un quelque chose. Un quelque chose. Le vieux Chandès, qui bien que n'étant plus de la première jeunesse, était premier orateur et dans l'ensemble n'avait pas été le plus mauvais d'entre eux, Chandès avait discerné là quelque chose, sans avoir eu besoin de faire tous les recoupements et les raisonnements auxquels s'était livré Jean Dibal durant le cours de son voyage. Trévise, avait estimé Chandès, était la clé de la crise. Pourquoi Trévise était-il venu sur Seychelles? Que préparait-il? Que faisait-il? Et il n'était pas question de le toucher. De cela, Jean Dibal était sûr. Jusqu'à ce que l'on sache exactement le rôle qu'il jouait, ce serait une totale erreur de chercher de quelque manière à modifier son comportement. Avec les anti-mulets dans les parages, quel qu'il soit, quoi qu'il puisse être, toute initiative malencontreuse à l'égard de Trévise, Trévise par-dessus tout, pouvait leur exploser au visage comme un microsoleil totalement imprévu. Il sentit un esprit planer autour du sien et l'écarta machinalement comme il l'aurait fait sur Trentor d'un insecte particulièrement pénible, mais avec l'esprit et non pas d'un mouvement de main. Il perçut l'immédiate réaction de douleur chez l'autre et leva les yeux. Soura Novi avait porté la main à son front. Elle fronçait les sourcils.
« Pardon, maître. » Mais j'ai senti comme une brusque bouffée d'angoisse dans ma tête.
Jean Dibal en fut immédiatement contrit. Je suis désolé, Novi, je ne pensais pas, ou plutôt, j'étais trop absorbé dans mes pensées. Instantanément, et avec la plus grande douceur, il aplanit les délicats filaments mentaux froissés. Novi eut soudain un sourire radieux.
C'est passé d'un seul coup. Le doux son de votre voix, maître, a le meilleur effet sur moi.
À la bonne heure. Mais quelque chose ne va pas. Pourquoi es-tu ici? Il s'abstint de pénétrer plus avant dans son esprit pour y découvrir lui-même la réponse. Il éprouvait une répugnance croissante à envahir son intimité. Novi hésita. Elle se pencha légèrement vers lui.
Ça m'avait inquiété. Vous voir comme ça, regardé dans le vide, en faisant des bruits et en grimaçant. Je suis resté planté là avec la peur que vous soyez, comme qui dirait, dérangé, malade, sans bien savoir quoi faire.
Ce n'était rien, Novi. Il ne fallait pas avoir peur. Il lui tapota la main. Il n'y a rien à craindre, tu comprends? La peur ou toute autre émotion violente, tordait et déformait en quelque sorte l'architecture symétrique de son esprit. Il préférait le voir calme, paisible et heureux, mais il hésita devant l'idée de le rectifier par une influence extérieure. Elle avait mis le précédent ajustement sur le compte de l'effet de sa voix, et il préférait, lui semblait-il, qu'on en restât là. « Novi ?» lui demanda-t-il. « Pourquoi je ne t'appellerai pas Soura ?» Elle leva soudain vers lui un regard pathétique.
« Oh, maître, ne faites pas ça !»
Mais Rufiran ne s'en est pas privé le jour de notre rencontre. Maintenant qu'on se connaît suffisamment,
je sais bien qu'il le faisait, maître. C'est comme ça qu'un homme parle à une fille qu'a point d'homme, point de promis, qu'est incomplète, quoi. Il lui dit son petit nom. Pour moi, ça me ferait plus d'honneur si vous m'appeliez Novi, et j'en serais fier. J'ai peut-être point d'homme pour l'heure, mais j'ai toujours un maître, et je suis contente de ça. J'espère que vous verrez pas de la gêne à m'appeler Novi.
Certainement pas, Novi. Et à ces mots, l'esprit de la jeune femme redevint si merveilleusement lisse que Jean Dibal en fut tout content. Trop content même. Aurait-il dû être content à ce point? Légèrement penaud, il lui souvint que le mulet était censé avoir été affecté de manière analogue par cette femme de la première fondation, Beïta Darel, à son corps défendant. Ici, bien sûr, ce n'était pas la même chose. La choyenne était sa protection contre tout esprit étranger, et il tenait à la voir remplir cette tâche le plus efficacement possible. Non, ce n'était pas vrai. Sa fonction d'orateur risquait d'être compromise s'il cessait de chercher à comprendre son propre esprit, ou pis, s'il manœuvrait délibérément pour se cacher la vérité. La vérité était qu'il se plaisait à la voir calme et paisible, et heureuse naturellement, sans qu'il eût à intervenir. Et cela lui faisait plaisir tout simplement parce qu'elle lui faisait plaisir. Et, songea-t-il en manière de défi, il n'y avait pas de mal à ça. Assieds-toi, Novi. Elle obéit, posant la pointe des fesses sur un siège et s'installant aussi loin que l'autorisait l'exiguïté de la cabine. Tout son esprit était inondé de respect. Il expliqua. Lorsque tu m'as vu faire des bruits tout à l'heure, Novi, j'étais en conversation, à la manière des chercheurs, avec un interlocuteur lointain. Novi répondit avec tristesse, les yeux baissés.
Je vois bien, maître, qu'il y a tout plein de choses dans la manière des chercheurs que j'arrive point à comprendre, que j'imagine même point. C'est pour sûr un art difficile qui va ben trop haut pour moi. J'en ai de la honte d'être venu vous voir et vous demander de me faire chercheuse. Comment ça se fait-il, maître, que je vous ai pas fait vous moquer?
Il n'y a pas de honte à aspirer à quelque chose, même si c'est au-delà de notre portée. Tu es trop âgé maintenant pour devenir un chercheur à ma manière, Novi. Mais tu ne seras jamais trop vieille pour en apprendre plus que tu ne sais déjà et pour être capable d'accomplir plus de choses que tu ne sais en faire actuellement. Tiens, je vais t'enseigner certaines choses concernant ce vaisseau. D'ici qu'on ait atteint notre destination, tu en seras déjà un bon bout. Il se sentait ravi. Et pourquoi pas? Il tournait délibérément le dos au stéréotype choyen. De toute façon, de quel droit un groupe hétérogène comme celui de la Seconde Fondation instaurait-il un tel stéréotype? Après tout, leurs enfants n'étaient que très occasionnellement capables de faire eux-mêmes des seconds fondateurs de haut rang. Les enfants d'orateurs n'avaient presque jamais les aptitudes pour devenir orateurs à leur tour. Il y avait bien eu 3 générations de linguistes 3 siècles plus tôt, et encore on n'était pas certain que l'orateur du milieu de la série pût être inclus dans le lot. Et même si c'était vrai, pour qui se prenaient les gens de l'université pour se hisser sur un si haut piédestal? Il vit luire les yeux de Novi, et il en fut heureux. Elle lui dit
« Je vais faire un effort pour bien apprendre ce que vous allez m'enseigner, maître. »
« J'en suis certain, » répondit-il. Et puis il hésita. Il lui revint que lors de sa conversation avec Comport, à aucun moment il n'avait fait entendre qu'il n'était pas seul à bord. Rien ne laissait penser qu'il pouvait être accompagné. Accompagné par une femme encore à la rigueur, Comport n'aurait sans doute pas été surpris, mais par une femme choyenne. Durant quelques instants, et en dépit de tous ses efforts, Jean Dibal se sentit sous l'emprise des préjugés, et il se surprit à se féliciter que Compor ne fût jamais allé sur Trentor, et fut donc bien incapable de reconnaître en Ovie une choyenne. Il se ressaisit. Qu'importait que Compor l'apprît ou non, lui ou un autre? Jean Dibal était un orateur de la seconde fondation, et il pouvait agir comme il lui plaisait dans les limites du plan Seldon, et nul ne pouvait y trouver à redire.
« Maître, » dit Novi une fois rendu à destination, « est-ce qu'on va se quitter ?»
Il la regarda, et dit peut-être avec plus de force qu'il ne s'y attendait, « Il n'est pas question qu'on soit séparés, Novi. » Et à ces mots, la femme choyenne sourit timidement, et par toute la galaxie, elle lui donna l'impression d'être pareille à n'importe quelle autre femme.